Mulhem, Côte d'Amérique, une nouvelle méthode judiciaire. On sait combien se sont attisés en ces temps derniers les polémiques des journaux par rapport à l'application continue, régulière pour ainsi dire, de la loi du lynch dans les régions ouest et nord des États-Unis. La majeure partie du monde civilisé réprouve hautement ces primitifs procédés de justice sommaire. Mais dans les susdits Far West, à travers les fraîches étendues prairiales parmi les jeunes peuplades pressées de fixer leur soudaine situation et d'imposer leurs droits essentiellement litigieux des premiers occupants, ce même système de hâtive répression rencontre des obstinés défenseurs. D'après ces derniers, le lynch répond, en l'absence de police effective, répand une inutile terreur. Il annule les chances d'impunité que laisse aux scélérats l'hésitante jurisprudence des tribunaux imparfaitement établis. Il oppose enfin un état de guerre perpétuel à la tourbe d'aventuriers et de décumeurs toujours prêts à s'abattre sur le berceau de l'espérance publique. Incidemment, les mêmes apologistes font valoir l'impression moralisante de ces fougueuses vindictes de l'emportement populaire. C'est un sublime effet de l'instinct social, prétendent-ils, que cette subite entente des masses pour la défense de l'intérêt commun. C'est un merveilleux spectacle, argue-t-il encore, que de voir à la première nouvelle d'un forfait l'humaine cohue soulevée comme un brusque coup de mer dans le vent de fureur. Viol, vol ou tuerie, l'auteur du crime est détenu. L'enquête s'ouvre, le verdict se prépare. Allons donc, formalité vaine en ces terres vierges. Le mot d'ordre se répand comme une flamme. Les hommes, les citoyens, les clubs de conjurés, les barbillons de vengeurs, les phalanges de viragos, en armes, à pied, à cheval, accourent de tous les horizons. C'est la nuit tragique des aéropages hors la loi. Le rendez-vous est devant la geôle. On extirpe le captif des mains saignantes des sbires et d'arrache-pied on l'accroche muet, morbide, cauchemardé, râlant au réverbère du prochain coin de rue, aux branches du premier arbre de la route. Justice est faite. La foule, qui n'est que hâte et silence, s'efface, anonyme. Le cadavre, dans son sueur d'ombre, s'étire seul, noir, maigre, très long. Certes, le fait divers ouvre ici les larges ailes du drame et le goût du pittoresque trouve pâture à ces rudes épisodes. Mais les adversaires éclairés du lynch opposent de solides raisons à ces considérations de pure esthétique yankee. Ils représentent notamment que l'importateur de ce régime pénal vers la fin du XVIIe siècle, M. George Lynch lui-même, le rigide magistrat irlandais, ne requérait de telles mesures d'exception qu'en des circonstances bien précises de flagrant délit, tandis que ses imitateurs actuels prétextent trop souvent des charges les plus dubitatives et semblent avoir à cœur que de rompre par le vertueux intermède d'exécution capitale la monotonie de leur agreste destinée, d'ailleurs dépourvue d'autres genres de distraction. Il est le plus insinué que les attentats ainsi châtiées dépassent d'ordinaire les limites d'une aptitude individuelle et démontrent une collaboration. D'où on peut conclure que de nombreux affiliés, anxieux d'étouffer le risque de révélation subséquente, s'empresse de rééditer l'Holocauste du bouc d'Israël en nouant la corde au cou du moins subtil d'entre eux. Pris entre mille, ces quelques arguments caractérisent suffisamment pour nous le fond du débat, enfin envenimé de tant de violence que les législatures des États les plus notoirement imputés de l'inertie dans la question, n'ont pu se défendre à leur tour de s'émouvoir. Des projets de réforme ont été mis à l'étude avec une ardeur fouettée d'émulation, à tel point que les autorités judiciaires du Dakota, premières arrivées dans cette course au progrès, ont eu, dès ces jours-ci, l'honneur d'introduire, en séance solennelle d'inauguration, un mode entièrement inédit de procédure dont les résultats juridiques et scientifiques auraient offert, au dire d'un journal de là-bas, le plus haut intérêt. Le sujet, aux dépens de qui se réalisait cette première expérience, était un coureur de proie, un trappeur avéré du nom de Will Jeans, inculpé d'un incendie de ranch après meurtre probable des résidents mâles, derniers outrages supposés sur tout ou partie du personnel féminin, puis présumable soustraction du total de numéraire accessible. La dissipation des espèces monnayées et le cinéraire anéantissement des victimes ou témoins ne laissaient subsister d'autres motifs de conviction que la présence estimée infortuite du comparant sur le lieu du sinistre. En elle-même, donc, indépendamment de l'attrait des innovations judiciaires, la cause affectait les palpitants aspects d'une affaire à sensation. Puis ce procès remuait de fond en comble les passions vitales. Il résumait les mœurs ravageuses des êtres disséminés dans ces immenses landes de hautes herbes balayées de brouillard, d'alertes spéculateurs acquièrent à vil prix et défendent l'urbe-point, seigneurialement le ranch, l'énorme agglomération de pâturages et de troupeaux, où le rôdeur, l'émigré et l'affamé chercheur de fortune commet le rapt en gros du bétail qu'il essaye d'aller détenir et de faire féconder au loin, dans la solitude verte, plantureuse, libre. Oui, le souffle de haine respiré dans cet air d'exercer une bataille en accapareur et bandit s'embrasait à l'occasion de cette mémorable instance. Mais, avant de raconter le dénouement, assez bizarre, on va le voir, il convient de spécifier brièvement, à l'exemple du journal les plus hauts, la nature des modifications décrétées par la magistrature du Dakota. La principale préoccupation de ces juristes consultes d'élite, nous prenons ce mot d'élite dans le sens que lui prête le mandat électoral américain, avait été de ne pas aller imprudemment à l'inverse des idées reçues et de retenir, autant que possible, dans leur révision, tout ce que les précédents errements comportaient de rationnel. Or, on ne saurait contester à l'expédient du lunch positif d'une économie de temps et de dollars pour la promptitude exécutive et par l'absence des budgétaires détours, sans compensation, s'exige l'hébergement à long terme des condamnés. Il était urgent que les mêmes avantages subsistassent dans la refonte de la loi, et d'ailleurs, consulté sur ce point en secrète délibération, les lyncheurs les plus éminents ou les plus influents du pays s'étaient montrés inflexibles. Il fallut, en un mot, maintenir presque intégralement, quant au fond, l'abrupt exercice du lynch, mais tenter de le réconcilier avec ses détracteurs en l'habillant d'un ostensible appareil de législation. La mesure à suivre se trouvait dès lors strictement tracée. Il fut convenu que, dès le crime commis, l'alarme instantanée du réseau télégraphique manderait l'administration pénale de tout grade à Cheyenne. C'était le joli nom adopté pour l'essai de future capitale du Dakota. Les hauts fonctionnaires de l'instruction criminelle, des assises, de la cassation, ainsi que le jury désigné par la majorité des détenteurs terriens et le commissaire d'État subsidiairement investi du droit de grâce, devaient se rendre sans désemparer au tribunal par l'ultra-vitesse réalisable de locomobilité. Au centre d'un vaste amphithéâtre, réunissant la susdite hiérarchie et la foule, le prévenu transféré sans délai de la scène du crime sur celle de l'expiation, figurerait sur un siège compliqué d'un mécanisme à hauteur de nuque, dit guillotine, horizontale et récemment brevetée. Le bourreau se tiendrait prêt à pousser le ressort de cette invention, et pour comble de modernisme, un médecin légal ou physiologiste assermenté avoisinerait l'instrument afin de recueillir sur le vif sur le restant d'activité cérébrale les observations scientifiques qu'il est devenu d'usage de noter en pareille circonstance. L'ensemble de ces dispositions abréviatives se corroborait de considérants propres à déterminer la dialectique intime des magistrats. Il était stipulé, par exemple, que chacune des cours serait représentée par un seul titulaire, attendu l'indispensable nécessité d'éviter les retardants conflits d'appréciation. Par les mêmes motifs, un unique délégué revêtu de l'implacable mandat devait agir au nom du grand jury, composé des notabilités les moins transigeantes des classes capitalistes. Le nouveau code supprimait, d'autre part, le jeu du réquisitoire et de la défense, vu qu'en se neutralisant, ces deux efforts contraires laissent la cause en l'état et n'aboutissent qu'à l'usure de temps superflu, jactances oratoires. L'avocat, au reste, n'affronte jamais l'incrimination de face et la renvoie dans des circonstances prétendues atténuantes, telles que faiblesse d'entendement, éducation perverse, misère éperdue ou toute autre anomalie inhérente à la personnalité de son client. Or, les confectionneurs de réformes avaient rigoureusement résolu de passer outre à n'importe quelle concession dans ces sens-là. Leur théorie tenait à terminer les aspirants, à terrifier les aspirants malfaiteurs et non à susciter la vocation à développer l'expérience des gredins par une absurde publicité d'abondants détails sur les forfaits commis. La solution privée ou les aptitudes caractéristiques des délinquants ne sont-ils pas en effet des objets de minime importance comparativement à cette suprême manifestation d'intérêt public, la peine spéciale érigée en exemple. Les exécutions éventuelles d'innocents personnages et leur réhabilitation posthume semblaient presque souhaitables à ces impassibles doctrinaires, en ce qu'ils s'associent au crime l'idée exacte, au fond, d'une solidarité sociale et proclament ainsi dogmatiquement le préjudiciel efficacité du droit de punir. Aucune défaillance subversive n'altérerait donc la rigueur du tribunal, uniquement chargé d'estampiller le lynche d'une décente apparence officielle. Le cérémonial, enfin admis, assurait un superlatif excès de précipitation. Chacun des magistrats spéciaux n'avait à dire qu'un mot pour formuler son arrêté respectif. L'énoncé du crime, la condamnation, le reste de recours et de grâce volerait ainsi de bouche en bouche en une souple phrase à peine prononcée que déjà le médecin expert questionnerait la tête décollée par le bourreau. Après ces explications en guise de préface au procès de Will Jeans, le précité journal de l'Ouest rapporte de l'audience le récit suivant, dont on appréciera, croyons-nous, la frappante concision. L'amphithéâtre est bondé. Le respectable corps judiciaire prend place sur l'estrade en face du public. Le délégué des jurés se tient à gauche. Le commissaire d'État à l'autre extrémité. Flanqué de l'instruction et de la cassation, le président des assises siège dans le milieu. Plus loin, à droite, devant le médecin et l'exécuteur restés debout, on aperçoit, des fois de trois quarts, le farouche Willins, lié par des câbles au célèbre fauteuil coupe-tête, dont l'ingénieux siège-cercueil s'ouvrira tout à l'heure pour engloutir le corps. Livide et déprimé, salement enduit de barbe, le profil de Jeans convulsé, un sourire qui peut au choix s'interpréter comme un indice de cynique forfanterie ou de stupidité sans fond. Cet équivoque rictus produit une impression irritante sur l'auditoire. Que résultera-t-il de ces simagrées d'astuces ou d'hébétements ? Cet équivoque rictus produit une expression irritante sur l'auditoire. Que résultera-t-il de la simagrée d'astuces ou d'hébétements ? Va-t-on s'apitoyer sur ce pleutre, le questionner, écouter ses aveux ? La fameuse réforme n'ouvrira-t-elle que d'immenses mystifications et d'odieuses mystifications ? Sombres, les lyncheurs sérieux sont sur le qui-vive. Et de son côté, le groupe des frappeurs-trappeurs, anciens collègues supposés de M. Jeans, dissimule mal son intolérance à l'égard de toute tentative d'interrogatoire confidentiel. Une méfiance d'éclat chaîne proche de la fureur. Des revolvers apparaissent dans toutes les mains. Peu s'en faut qu'en cet instant d'exaltation, on inflige sur place un lynche préventif à toute la querelle jugissance judiciaire. Le tumulte tourne à l'orage lorsque, au coup de cloche annonçant l'ouverture des débats, le silence s'établit, le silence sans souffle d'une foule durant le drame imminent. À ce moment, notez ce drame en sa promptitude d'éclair, et comment le noter ? Meurtre, viol, incendie, la mort, oui. Pas de grâce, articulent les magistrats d'une voix collective. Mais, proteste dans l'étranglement mécanique la tête de Will, que déjà Le médecin invite à s'expliquer d'une façon posthume. Illusion ou vérité saisie au vol? Le reste du grognement guttural semble continuer d'endetter entre les dents jaunes de William Jeans. La vie, oui, elle palpite encore sur cette grimace tuée. Elle accentue, plus pincée dans la pâleur verte du raccourci, le sourire gouailleur ou niais, au choix. Et la clameur commencée achève de couler des lèvres béantes. On jurerait qu'un tressaillement de la langue glousse d'angoissantes syllabes. La science tient-elle une solution? Atteste-t-elle ses têtes tranchées, l'affreuse attardance de la pensée, de la douleur au vif du centre nerveux? Tel est le doute de la foule qui se retire, aurait s'enchanté de l'excellent fonctionnement du système. Jeans a-t-il parlé vraiment? Ceux qui l'affirment cherchent-ils qu'à faire des dupes? Et ceux qui prétendent le connaître méritent-ils la croyance? Les aspirations les plus diverses circulent. Les gens de bon ton, les lyncheurs de marque, penchent pour la négative et se bornent à conclure que, de toute façon, Puigib c'était dame trop basse pour trouver à dire quoi que ce soit en un si solennel moment. Il était incapable de se guillotiner d'un pareil coup de tête, ajoute-t-on avec dédain. Mais au sein du populaire, parmi les présumables ex-affiliés du défunt, on se plaît à raisonner différemment. De ce côté surgit, s'élève, grandit une légende appelée à accréditer sérieusement au lointain des prairies et après laquelle les généreux Will, témoignant passagèrement d'une finesse au-dessus de son éducation, aura déclenché d'un verbe clair la phase de la science et de la justice. Cet aphorisme, la mort garde son secret. Parole simple, mais exacte. Résumant peut-être ou peu s'en faut, la philosophie de tous les genres de voix de lynches.